m'agace si je suis trop nul. Je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour chers auditeurs du 102.9, mais moi je préfère dire en alsacien comme d'hab. Bonjour le Lévi Rundfunksu Hermer Gross Eiri Orleplof und jetzt geht's los wie auf dem Racing. Ce beau matin ensoleillé, j'ai fait une place, comme le fredonne le parrain de notre émission Julien Clerc avec ses logs, à une recette vieille comme le monde qu'on a préparée déjà avec amour, avec du miel, mélangé avec de la cannelle, de la noix de muscade, honey, zimt und muskatnuss. Et si cette gourmandise est mise en valeur dans un célèbre conte des frères Grimm, où la vilaine sorcière avait construit une maisonnette en Lebkeschl pour séquestrer Hans et Gretel. Et ce matin, je vous présente en exclusivité, non pas la sorcière bien sûr, Nan, pas la Hex, non mais le père spirituel des Lebkeschl, connu comme le loup blanc en Alsace et même autour de la planète Tortor, c'est vrai. Que de Maurier Gérard Fortwenger, merci d'être venu jusqu'à chez nous pour nous raconter une autre belle histoire, la vôtre, celle des pains d'épices à Gertwiller. Et bienvenue à ce micro.
Bonjour André, ça me fait déjà plaisir d'être ici dans le studio pour pouvoir effectivement parler de ce qui est sur le pain d'épices. Je suis tout à fait prêt à te répondre à toutes tes questions.
On est ravis de t'accueillir. Alors dis-moi Gérard, on se tutoie, hein, vous avez connu cette sorcière qui a séquestré Hans et Gretel, Gérard?
Non, je pense que malheureusement je ne l'ai pas connu, mais ce n'est pas pour ça que je veux dire, c'est quand même une très belle histoire et je pense que le pain d'épices doit beaucoup à cette histoire.
Ouais, c'est vrai. Ah ouais, tu penses, t'es contre Grimm? Ouais. Alors, tu sais, nos grands-mères, quand on était petits comme ça, on avait des fois la Hemboule, c'est un peu la peur. Elles nous racontaient cette histoire avec Hans et Gretel. Hein, ça, c'est quand même une histoire un peu particulière, hein, qui fait frissonner un peu.
Bah, qui fait un peu peur, forcément, je veux dire. Les contes de Grimm en général, je veux dire, c'est quand même des belles, belles histoires. Ouais. Et moi, en tant que gamin, je me rappelle très bien de toutes ces histoires-là.
Ouais, ouais. Alors, je sais aussi quand ma grand-mère me racontait ça, quand j'étais petit garçon, après, on prenait toujours un goûter à 4 heures avec les Lebkeschl en forme de langue, comme ça, wie so zung. Je m'en souviens très bien, hein, c'était quand même des grands moments de bonheur, ça.
Ben effectivement, c'est toujours, effectivement, aujourd'hui, les langues, tout ce qui est langue glacée, langue aux amandes, fait partie, je veux dire, des traditions alsaciennes. Avant tout, c'était une des premières sortes de pain d'épices qui ont été fabriquées à Gertwiller, dont effectivement la marque...
La tienne?
Ouais, Fortwenger, pour la citer.
Yeah, hein. Yeah.
Je veux dire, existe depuis 1789.
Waouh!
Alors, c'est une histoire qui est arrivée, donc c'est un boulanger qui...
Ouais. Attends, avant que tu me racontes l'histoire, je voulais juste savoir, tu as grandi à Gertwiller?
Non, pas du tout, j'ai grandi à pas loin, 5 km de là, à Zellwiller.
Ah, c'est un petit, sur une sorte de dépôt rocheux,
non, pas
là.
Du tout, c'est non juste à côté, je veux dire, c'est à gauche de Gertwiller, ça, 3 km, quoi.
Elle était comment, ton enfance, là-bas?
Ah ben moi j'avais une enfance tout à fait, tout ce qui était très très, très traditionnel et logique. J'étais fils d'agriculteur, mes parents ils avaient une ferme, je veux dire, j'ai travaillé dans la ferme. Bon, j'ai pas trop aimé ça parce que j'avais un frère qui lui il adorait ça et mon père quand il voulait m'emmener, quand je voulais vraiment rien faire, il m'emmenait dans les vignes et je coupais là où il fallait pas couper, il me dit dégage, comme ça j'étais tranquille, j'étais plus obligé de revenir, j'étais un peu malin, plus malin que mon frère.
T'as mal travaillé, t'as coupé. Ah mais c'est ça, ça fait partie de l'audace de la vie, hein, c'est voilà. Vrai. Et alors, ton rêve d'adolescent, c'était de faire ce métier, le métier de boulanger, d'épicier, d'avoir les épices, enfin. Tu as commencé à parler un petit peu de ce pain d'épices, continue un petit peu à me raconter cette
alors,
belle histoire.
Alors au départ, je suis pâtissier de métier, hein, je veux dire, d'ailleurs j'ai appris pas très loin d'ici, hein, dans le quartier des 15.
Ah
j'ai,
bon
j'ai appris le métier pâtissier dans le quartier des 15. Ouais. C'est une pâtisserie qui s'appelait la pâtisserie Vogel, rue Gaillet, rue de Verdun, qui faisait le coin. Et à 13 ans et demi, pour tout dire, à 13 ans et demi, ben, je voulais pas continuer les études. J'ai décidé de partir en apprentissage chez monsieur et madame Vogel. Et j'ai fait 3 ans d'apprentissage dans cette pâtisserie et qui m'ont formé. Je dirais, je leur dois beaucoup, parce que c'était encore à la dure, et je trouve que ça fait que du bien pour le futur. Quoi.
Et alors, tu parles à l'instant de Charles Fortwenger, tes aïeux, depuis 1768, ouais. On fait du pain d'épices à Gertwiller.
Alors, Charles Fortwenger, ça c'est les écrits qu'on a retrouvés, hein, je veux dire, c'est lui qui a démarré à faire du pain d'épices à Gertwiller, sachant que, je veux dire, il était... il avait fait un stage ou une formation en Allemagne du côté de Nuremberg, et c'est avec ça qu'il est rentré à Guertulère, et c'est comme ça que le pain d'épices à Guertulère a été lancé, sachant quand même que début du siècle, il y avait plus de 8 fabricants de pain d'épices à Guertulère.
Ah ouais, mais ça vient en fait, la capitale du pain d'épices, c'est Nuremberg, c'est en Bavière.
C'est exact, c'est Nuremberg. Et je veux dire, comme il a ramené un peu les recettes et les façons de faire, il a commencé à faire ça à Guertulère. Et après, il y a plusieurs autres artisans qui se sont mis à ses côtés. Comme je viens de dire, ils étaient à 9 au début du siècle à faire pain d'épices à Guertulère.
Et ça remonte aux années 1800 à peu près ?
1800.
Donc quelqu'un est parti voyager jusque là-bas en Bavière et il a ramené cette recette.
C'était ce Charles Forbinger, qui était boulanger de métier.
Et toi, en fait, dans les années 70, t'as mordu à l'hameçon, c'est la sorcière qui t'a enfermé dans le Lebkichl.
Dans les années 70, pas encore. Je viens de prendre l'apprentissage dans les années 70.
Ah, pardon.
Ouais, j'ai fait 70, j'ai fait 3 ans d'apprentissage, après j'ai travaillé comme ouvrier. Et après, je dirais souvent que dans ma vie, j'étais un peu parachuté dans le pain d'épices, appelons un chat, parce que je pensais pas un jour que j'allais faire du pain d'épices. Mais ça s'est fait d'une manière un peu très spéciale, c'est-à-dire, j'avais une copine à l'époque, qui est devenue ma femme plus tard. Et moi, j'étais à l'armée, pour raconter l'histoire, comment j'ai mis les pieds dedans. J'étais à l'armée, j'avais donc 20 ans. Et j'ai appris subitement, ma mère me téléphone pour me dire, le papa de ma future femme est décédé subitement d'un infarctus. Et là, j'ai dû me débrouiller. J'avais encore un mois d'armée à faire, pour raconter l'histoire. J'avais encore un mois d'armée à faire. J'ai dû me battre pour rentrer parce que j'étais pas marié, j'avais pas le droit de partir. Et je me suis débrouillé, je suis tombé sur un...
T'as fugué ? T'as fait une fugue ?
J'ai pas fugué, je suis tombé sur un commandant, parce que j'avais la chance, c'est que dans l'armée où j'étais, il y avait les chasseurs, le train et encore une autre compagnie. Et mon patron de l'époque voulait pas me laisser partir, et le commandant, qui était un Alsacien d'ailleurs, que je remercie encore aujourd'hui, il m'a dit, ici c'est moi qui décide, tu rentres et tu reviens après. Et c'est là que j'ai effectivement un peu triché, pour tout dire. Je ne suis réellement plus jamais revenu.
Tu n'es pas revenu, c'est évident.
Pourquoi ? Parce que c'est une entreprise à l'époque qui appartenait donc aux beaux-parents, qui est une PME, il y avait 2 salariés pour tout dire.
Que 2 salariés qui faisaient du pain d'épices ?
Oui, tout à fait.
Dans cette période-là ?
Il y avait le beau-père, il y avait effectivement il y avait la belle-mère, il y avait encore deux productions. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait, en Alsace, les Teulener, ça veut dire les gens qu'on appelait...
Les journaliers.
À la tâche, qu'on payait en fin de semaine quand ils avaient besoin d'eux, et les gens, ils venaient, et puis voilà. Et puis je me suis un peu retrouvé malencontreusement à cette... Je dis, c'était parachuté à cet enterrement, et ma future belle-mère me dit tout de suite après, qu'est-ce que t'en penses, t'es pâtissier, est-ce que tu... Ça ne te dirait pas de reprendre. Alors, vous savez, à 20 ans, André, à 20 ans, je ne sais pas si tu te rends compte. À 20 ans.
On ne sait pas trop où on va, quoi.
C'est pas évident, je veux dire.
Ouais, c'est
alors,
clair.
J'ai dit oui à une condition, je veux bien essayer un an. Et au bout d'un an, si ça ne va pas, écoutez.
Tu fais autre chose, quoi.
Vendez-le, faites autre chose. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds, effectivement, dans le pain d'épices. Voilà.
Et alors, la recette, elle est toujours la même ? Tu l'as adaptée un petit peu à tes goûts ?
La recette, au départ, elle est restée la même. Après, je l'ai modifiée forcément.
Comme j'ai dit, avec du miel, de la mouscatnuss.
Oui, il y a de la muscade, anis étoilé.
Voilà. Ben écoute, on va écouter une petite musique. Thomas va nous mettre la petite musique. Tu vas voir, ça va te plaire. C'est quelque chose que tu m'as demandé. La musique numéro 2.
Pour moi, la vie va commencer. Avec garder mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer. Et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie, chevauchant avec mes amis. Pour moi la vie va commencer.
Et alors, pour toi la vie a commencé aussi de cette manière, avec ton rêve et de produire, d'agrandir cette belle maison du pain d'épices. Et t'es toujours été monsieur plus, toujours aller faire plus.
Écoute, je pense que j'avais pas trop le choix. Je veux dire, si je serais resté au stade là, je crois qu'on n'aurait pas, on parlerait pas aujourd'hui. de la marque comme aujourd'hui, elle est répandue quand même dans toute la France, même en Europe. C'était pas évident pour moi qui étais pâtissier de métier, et du jour au lendemain, entre la production, j'ai dû m'occuper de la production, faire les pâtes et tout ça, et partir avec une mallette à la main, voir des centrales d'achat et autres. Je vous rappellerai toute ma vie la première centrale que j'ai faite, et je le remercie encore aujourd'hui, j'ose le dire, j'ose même citer son nom. C'était à l'époque, c'était l'enseigne Migros qui existait en Alsace.
Ah Migros, ouais.
Et l'acheteur s'appelait Robert Hasenfratz.
Migros, t'as reçu un Migros devant la bouche.
Oui, c'est un Migros. Migros qui est devenu Match par après.
Ouais, ouais.
Et la centrale était effectivement en Alsace. Et je me suis allé la première fois, je me rappellerai, ça c'est des choses qui te marquent dans une vie. J'arrive avec une mallette à la main, je commercie. Moi, je n'ai jamais rien fait, j'ai une salle d'attente, je me présente, je suis rentré, puis à un moment donné, j'explique un peu comment ça se fait que je suis rentré là-dedans et tout le tralala, et je tombe sur quelqu'un qui était vraiment, comment puis-je dire, je veux dire, au lieu de me descendre, parce qu'il aurait très bien pu me casser complètement, il m'a plutôt donné des conseils. Hein, il m'a donné des conseils.
Pour la vente, pour le côté commercial.
Pour le commerce, pour dire, attention, tu rentres dans un monde... J'appellerais ça.
De requin.
De requin.
Ouais.
Eh ben, je veux dire, il faut que tu fasses comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Il a vraiment joué le rôle plutôt informateur que le rôle d'acheteur. Et je le remercierai jamais assez, je le dis. Et effectivement, on a travaillé ensemble, on a commencé à bosser ensemble. Et c'est le premier rendez-vous que j'ai eu, mais j'étais pâle. Quand je suis sorti, j'ai transpiré comme pas possible. Mais bon. Ça m'a permis de faire le premier pas, et suite à ça, après j'ai fait...
Après le succès, on ne peut pas dire qu'il est venu tout seul, mais t'as
eu... Non, après j'ai dû effectivement, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on ne travaillait qu'en Alsace, je veux dire, hein, c'était connu qu'en Alsace, à la limite par Rhin, un peu au Lorrain. Après, au fur et à mesure, je me suis un tout petit peu déplacé, j'ai fait les Vosges, j'ai commencé par les Vosges, je suis allé à Moselle, Meurthe-et-Moselle...
Toujours avec ta valisette en main.
Toujours avec ma valisette, et j'ai rencontré... À l'époque, c'était différent, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, en centrale d'achat régionale, il y en avait une dizaine en région. En région.
Ah ouais.
Sachant qu'aujourd'hui, il en reste 5 nationalement.
Ah ouais, ok.
C'était vraiment... Je vais tous les citer, mais peu importe. Alors, je fais l'un après l'autre. Alors, j'ai raconté une anecdote qui est assez marrante. À l'époque, j'avais un client qui s'appelait la Coop d'Alsace, comme on l'a connu, quand même une grande maison.
Le Consum en alsacien.
Le Consum. Ouais. Et j'arrive chez un acheteur, et puis pareil, qui appelle monsieur, voilà, qui me dit, oui, bon, ok, ça me va. Par contre, tel et tel produit, je ne les ferai pas avec toi. Ah bon? Et pourquoi? Ah non, ça, je l'ai fait avec la maison Vandamme, qui m'a toujours fait.
Ah
ouais. Je ferai les langues avec toi, mais tout ça, je ferai là-bas, les Saint-Nicolas, les trucs, je les fais là-bas. Je dis, bon, écoute, tant pis, hein, je veux dire. Seule chose qu'il ne savait pas, c'est que, entre-temps, Vandamme, la grosse société, je leur avais piqué de tels volumes dans le Grand Est, qu'ils m'ont téléphoné et qu'ils m'ont demandé. Cette année-là spécialement, de travailler pour eux avec leur image.
Ah ouais,
alors,
d'accord.
Ce qu'il ne savait pas, ce monsieur, j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est quand même moi qui ai produit pour eux. Et pour l'année d'après, je lui ai quand même dit, bon, écoute, c'était réglé.
Ouais. Alors, il faut être malin dans le business, j'imagine. Hein. Il faut avoir de l'audace aussi.
Bah, je pense qu'il faut effectivement avoir un tout petit peu de jugeote.
Ouais, ouais.
Parce que si tu n'as pas de jugeote dans ce métier-là, c'est un métier...
Bah, t'en as eu toute ta carrière, enfin, je pense. Tu vois.
Bah, je pense
et d'où vient, en fait, tu as beaucoup diversifié le pain d'épices. Hein. T'as fait en gardant la recette, t'as eu plein d'idées avec le Manelland, so vidre.
Bah, écoute, au départ, je veux dire, déjà, un petit peu moderniser les produits par rapport... produits chocolatés, je veux dire, il n'y avait pas de pain d'épices au chocolat, je veux dire, à l'époque, j'ai une première enrobée de chocolat, j'ai commencé à faire du pain d'épices au chocolat, après, on a fait avec des goûts variés, amandes, noisettes, pépites de chocolat, enfin, après, au départ, le pain d'épices, c'est quelque chose de très simple, si tu veux, c'est une pâte mère, ce qu'on appelle mitre.
Ça veut dire quoi, mère?
Pâte mère, c'est la mère du produit, c'est-à-dire...
Et la
c'est...
farine, tu parles des
farine,
ingrédients?
Farine, miel et sucre.
C'est les 3 gros produits importants.
Pâte mère, qui doit au départ être faite à l'avance. Et à l'époque, on les faisait tenir minimum 6 semaines en maturation naturelle.
Ah ouais, il fallait attendre 6 semaines.
6 semaines, qui existent encore aujourd'hui. Cette formule, elle reste encore la même aujourd'hui. Je veux dire, 6 semaines, on avait des cuves, à l'époque, des cuves qui faisaient à peu près 50 à 80 tonnes.
Une piscine comme ça, c'était une piscine.
Il y en avait 2.
Ah ouais.
Quand l'une, elle repoussait,
ah ouais.
L'autre, elle a travaillé.
Ah
en
ouais.
gros, c'était comme ça. Et c'est encore aujourd'hui comme ça, c'est un peu modernisé, parce que maintenant, c'est plus robotisé, parce que, voilà.
Pour faire la pâte, tu veux dire, pour faire cette
c'est
pâte
ça.
Mère.
À l'époque, c'est moi-même qui faisais les pâtes. Hein. Le samedi, dimanche, comme en semaine, j'étais ou bien commercial ou bien production. Ben, le samedi, après-midi, samedi matin, dimanche, souvent le matin, je faisais les pâtes. comme je devais en faire toutes les 5-6 semaines, pour les reposer, et c'est un peu comme ça que j'ai démarré.
T'as démarré, et aujourd'hui vous êtes combien dans ce labo à Gertwiller?
Ben aujourd'hui, à peu près, on est une centaine de personnes sur le site, 85-90 sur le site de Gertwiller. Entre-temps, en 2012, j'ai acheté un local à Ensisheim.
Ah, dans le Haut-Rhin,
dans
en fait.
Dans le Haut-Rhin.
À côté de la prison, là.
Oui, tout à fait. Et je veux dire, j'ai lancé, là-haut, j'avais une idée un peu spécifique. Je voulais faire, pas du pain d'épices, mais je voulais faire des brides, là, que j'ai lancé sur la marque de Mamie Lucie à l'époque. Hein, je veux dire, ouais. Parce que le mot Fornwenger dit pain d'épices. Alors, si tu mettais Fornwenger et tu mettais du pain d'épices, les gens ne comprenaient pas. Tu vois, c'était vraiment quelque chose. Quand tu dis Fornwenger, tu peux être où tu veux, tu dis Fornwenger, on va te répondre pain d'épices. Alors,
ouais,
mettre les brédelles dans Fornwenger, c'était un peu compliqué.
Ça n'allait pas, quoi.
C'est pour ça que j'ai aussi dissocié les ateliers de production, alors les brédelles. Et aujourd'hui, ça va très bien là-haut. C'est très... Le fils, entre-temps, il a pas mal modernisé.
Steve,
il a pas mal modernisé entre-temps. Bon, moi, j'ai effectivement. Avec toute cette carrière qui était vraiment judicieuse, au bout de 40 ans, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, c'est évident. La chance, il en faut.
Ouais, mais tu la provoques aussi, la chance, elle tombe pas du ciel. Hein.
Là, elle tombe pas du ciel. Et puis après, il faut être un tout petit peu malin dans les affaires. Hein, je veux dire, il faut sentir les choses, quoi, ouais. Je dirais.
Mais et donc, après, tu as cartonné avec tes produits.
Après, j'ai fait, effectivement, après, il y avait les marchés de Noël qu'on ne faisait pas du tout. J'ai commencé tous les marchés de Noël à Paris, à la Gare de l'Est. Ça fait 40 ans qu'on est à la Gare de l'Est. C'était un des premiers quand on a démarré, à l'époque, sur l'air Promaral. Et on y est encore aujourd'hui. C'était un des premiers marchés de Noël. Et après, j'ai développé les marchés de Noël à travers la France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je crois que Fornwenger doit être présent dans une bonne soixantaine de villes françaises.
Waouh, génial. Extraordinaire.
Voilà.
Extraordinaire. Mais moi, je pensais que le pain d'épices, c'était plutôt un produit de la Saint-Nicolas à Noël. Mais toi, tu es présent toute l'année?
Ben aujourd'hui, je veux dire, le gros du volume restera toujours en fin d'année, quoi qu'il arrive. Je veux dire, c'est quand même un produit festif de fin d'année. Mais on est tellement arrivé à diversifier les gammes qu'aujourd'hui, vous allez goûter tout à l'heure des produits qui n'ont plus rien à voir avec Noël. Je veux dire, mais il fallait faire ça pour sortir de la saisonnalité.
En fait, c'est pas de l'industriel, c'est encore de l'artisanat que tu fais.
Bon, alors attends. Alors là, il y a effectivement deux choses que je dis quand même. Je veux dire, alors on parle industriel et machin. Nous, on fait de l'artisanal et on fait de l'industriel. Je veux dire. Mais quand on parle de ça, ça me fait un peu marrer parce que je suis avant tout un artisan. Pourquoi?
Mais il faut que je te taquine un peu, hein, c'est normal.
Non, mais t'as tout à fait raison. Alors je t'explique. Au départ. Les produits, les pâtes sont exactement les mêmes, d'accord? Les pâtes mères que je t'ai dit tout à l'heure,
que
j'utilise la pâte mère manuellement ou industriellement, c'est la même pâte. La seule différence, c'est qu'après, au lieu qu'elle soit travaillée à la main, c'est des machines qui la travaillent. Mais pour moi, le produit étant le même, pour ça, souvent, ça me fait un peu marrer quand je dis que industrie. Mais c'est exactement la même base, la même pâte. L'une, elle est seulement travaillée, découpée à la main, tandis que l'autre, elle est faite sur des machines, des rotatives et autres, où il y a des séries qui puissent sortir. Quoi.
Ouais, alors je sais aussi qu'il y a des bus qui arrivent jusqu'à Gertwiller et ils font une visite guidée à travers un musée que tu as installé. Et c'était ton idée, ça?
Alors le palais du pain d'épices, ce n'était absolument pas mon idée. Il faut laisser à César ce qui est à César. Moi, j'avais une idée à l'époque, je voulais faire un truc, pour tout dire, un peu l'équivalent de ce qu'il y a à Rigvir, un truc de Noël toute l'année.
Ouais.
Et j'avais déjà fait les projets, les plans ont été faits, la maison à côté, et entre-temps, le fils est rentré dans l'entreprise, et puis il était en déplacement, si je ne me trompe pas, dans le sud de la France, et il rentre, il me dit, écoute, papa, ton truc, oui, mais moi j'ai un autre projet. Je dis, ben écoute, présente-le, je regarde. Et je regarde, et puis il me dit le palais du pain d'épices, et puis il a vu ça dans le sud, parce qu'il y a le palais du bonbon.
Ah ouais, d'accord.
Et l'idée vient de là, pour tout dire. Et moi, quand même pas... Bon, j'ai dit pourquoi. Je voulais pas rester sur mon truc, j'ai dit écoute, t'as forcément plus raison que moi, qu'est-ce qu'on fait? On change, on fait ça. Je me rappellerai toujours de l'architecte qui me disait, j'aime bien ce genre de projet, parce que le projet, j'avais fait les plans, j'étais payé, et je refais un deuxième pour faire autre chose. Alors, bon, et je pense que c'est plutôt une très bonne idée d'avoir fait le palais du pain d'épices.
Ouais, je crois que c'est quand même, ça fait partie du succès, quoi.
Ben, ça fait partie du succès, forcément, sachant que je crois l'année dernière, si je ne me trompe, c'était le premier musée privé alsacien avec plus de 70 000 entrées.
Waouh, extraordinaire. Et chaque fois que le musée, derrière, c'est le magasin, ils remplissent les paniers, c'est extraordinaire.
C'était un peu le but.
Ouais, c'est le but,
un
bien
peu
sûr.
Le but. Et
bien
là
sûr.
Est venu un peu le père, quand il y avait le fameux idée du fils de faire le musée. Je lui ai dit, il y a une condition, c'est que les gens ne puissent pas sortir avant d'avoir passé dans la boutique.
Ah, ben voilà,
c'est là le côté un peu commerçant.
C'est un peu le truc de Hansel et Gretel, hein. Dans la maisonnette, on te séquestre et après tu repars.
Et on s'est mis d'accord et aujourd'hui ça se passe plutôt bien.
Et alors cette idée de le petit ourson, le Maine-et-Loire, cette petite maisonnette en pain d'épices, qui c'est qui a eu cette idée de faire le Maine-et-Loire, qui est aussi un grand succès,
hein. Le Maine-et-Loire vient donc du palais du pain d'épices, comme l'instigateur du palais du Pain-d'épices, c'est le mandala, en fin de compte. Hein. Et à partir de ça, on a créé les pains d'épices en mandala, en forme de mandala.
Ah oui. Voilà. Et alors, dis-moi Gérard, tu es infatigable, tu n'arrêtes jamais.
Tu sais, quand tu as été pendant 40 ans dans une entreprise, à mener la barque du début du matin au soir, samedi, dimanche, souvent compris, c'est difficile, même si le jour où tu décides d'arrêter, et il fallait bien un jour j'arrête, parce que j'avais mon fils qui était là depuis une bonne dizaine d'années, et j'avais compris qu'à un moment donné, je ne veux pas dire je dérangeais, mais c'est normal, c'est légitime,
bien sûr.
Au bout de 10 ans, il avait compris le système, il avait ses idées, et puis j'avais annoncé qu'à 60 ans, quoi qu'il arrive, je lâche la boîte, et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu 60 ans en novembre 2016, le 1er janvier 2017, il était patron de Fornager.
Waouh, et t'es heureux, t'es content qu'il
reprenne. Et aujourd'hui, oui, bien sûr.
Mais je sais qu'il est bretzelisé, il a une bretzel
d'or. Il a
eu la Légion d'honneur,
Non, la médaille du mérite.
Ah, d'accord. Agricole, on peut dire ça comme nom?
T'as la Légion d'honneur, après t'as la médaille du mérite. Ouais. La deuxième après l'agricole, quoi.
Ah, d'accord. Voilà. Et donc, Steve, il a repris le flambeau, il est heureux.
Il a repris le flambeau, et puis, écoute, ça se passe plutôt bien, parce qu'entre-temps, il a développé quand même encore pas mal de choses.
Ouais.
Il a ouvert une boutique à Paris.
Attends, on va en parler, on va écouter une petite musiquette avec Thomas, qui va te plaire, le vent va t'emporter quelque part.
N'aie pas peur de la route, faut la voir, faut qu'on y goûte, des méandres au creux des reins, et tout ira bien. Le vent nous portera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien, le vent l'emportera.
Oh, c'est une belle musique, hein, c'est joli ça, c'est le magnifique. Vent t'emporte. Alors le vent, on peut le dire, t'a emporté même aux Champs-Élysées. Tu as une boutique aux Champs-Élysées, plus belle avenue du monde.
La plus belle avenue du monde, oui, c'est ça. Alors ça, c'est effectivement sous l'ère du fils qui a lancé ça il y a 2 ans. Et je peux que féliciter, je veux dire, moi j'avais monté énormément de boutiques en Alsace, hein, j'en avais 7 ou 8, hein, Strasbourg, Colmar, Aiguire, Kaisersberg, Oppenheim. Et lui, il a monté celle de Paris, Champs-Élysées. Et il en a remonté d'ailleurs entre-temps une deuxième à la cathédrale de Strasbourg. Ça fait qu'on a 2 boutiques aujourd'hui à Strasbourg. Et puis, non, aujourd'hui, ça va bien. Et l'avantage de ça, pour tout dire, l'avantage, c'est que tu n'es pas forcément tributaire que de la grande distribution.
Ah oui, c'est ça.
Quand tu arrives, parce que là, tu vends à tes propres magasins.
Ouais, c'est ça.
Tu n'es pas là en train de négocier les prix ou autre.
Mais un magasin Champs-Élysées, ça doit coûter bonbon, non? J'imagine en location.
Écoute, a priori, ça, c'est pas aussi cher que ça. Il a trouvé une bonne opportunité. Alors, non, les loyers sont corrects. Aujourd'hui, c'est légèrement peut-être un peu plus cher que Rick Viro Kaisersberg, mais pas énormément, quoi.
Donc, tu es content, le magasin marche bien.
Tout se passe bien à ce niveau-là. Il y en a un autre qui marche très bien, qui l'a rouvert donc, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, à la cathédrale. Ça, c'était une super affaire à l'angle de la cathédrale.
Oui, je connais bien cet endroit.
J'avais un rue d'Austerlitz qui est toujours là. Qui est là depuis 25 ans. Mais celui-là, la cathédrale, marche nettement mieux parce qu'elle, forcément, il y a plus de monde. Quoi.
Ah oui. Alors, j'ai aussi un ami que tu connais très bien, c'est mon ami Jean-Claude Fréry, qui me dit que tu as une autre passion que le pain d'épices, c'est le golf. Tu es golfeur?
Ben écoute, oui, je me suis un peu... C'est un peu ma façon d'être, en gros. Je veux dire, quand j'ai senti qu'à un moment donné, j'allais sortir doucement de l'entreprise, que j'allais prendre du recul, il fallait quand même que je trouve quelque chose qui...
De différent, quoi.
C'est différent et qui m'occupe en partie. Alors, je me suis mis au golf quand j'avais 58 ans, 2 ans avant que je sorte. Et en même temps, j'ai fait le permis de chasse, j'ai fait les deux en même temps. Alors, d'un côté... En été, je fais plutôt le golf, en hiver, je vais à la chasse.
Tu es sportif, on peut dire que tu as une âme de sportif?
Je suis un sportif moyen, je veux dire, à part le golf, je fais golf et chasse, en dehors de ça, je ne fais pas grand-chose. Le vélo, je n'ai pas un truc que j'adore par rapport à certains. Je sais que toi, tu as très, très grand, parce qu'on t'a tellement vu à la télé dans l'émission Occulte.
Avec le vélo, ouais.
Avec le vélo.
Ouais, je fais du vélo, du tennis, je fais un peu de sport encore aujourd'hui, ouais, pour, me donner l'énergie, quoi, tu vois. Et on va écouter une petite musiquette aussi avant de parler d'autre chose. Mets-nous voir un peu le feu, là, mon cher Thomas. Alors, si je t'ai mis cette musique, mon cher Gérard, c'est aussi parce que je sais qu'après un excellent repas, tu es quelqu'un qui aime savourer des bons repas, tu aimes fumer un petit cigare ou un gros cigare, un barreau de chaise comme ça, que tu délectes d'une manière très cool. C'est quoi comme instant, ça, de fumer un cigare?
Bon, alors, il faut savoir que j'ai été fumeur de cigarettes pendant très longtemps. Et un jour, j'ai totalement décidé d'arrêter. Alors pendant 4 ans, j'ai effectivement arrêté de fumer complètement.
T'es devenu nerveux, tout ça?
Non seulement je suis devenu nerveux, mais j'ai surtout pris du poids, un peu en chat. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai pris entre 6 et 7 kilos, j'ai arrêté de fumer.
C'est le pain des goûts du pain d'épices?
Peut-être, mais pas uniquement. Je veux dire, quand tu arrêtes de fumer, forcément. Alors j'ai dit, bon, au bout de 4 ans, maintenant, je suis certainement sevré, la cigarette. Et j'ai dit, maintenant, je commence à fumer un petit cigare. Et je me suis mis au cigare, lequel je fume, allez. Après chaque repas, midi et soir, je fume un Roméo Juliette, par exemple, c'est mon cigare préféré. En partant d'ici, d'ailleurs, je vais te dire que la maison du cigare de Strasbourg m'a téléphoné, il n'y en avait plus. Je peux en chercher tout à l'heure.
Ah, c'est génial, donc tu vois, c'est fait d'un pierre d'un coup, c'est bien, tu vas chercher. Mais tu ne fumes pas de Davidoff ou des gros cigares comme ça, des barreaux de chaise?
Ah c'est non, mais le Roméo Juliette, c'est déjà des cigares qui font 15-20 centimètres.
Ah, oui. Quand même. Ah,
c'est déjà des...
Et tu mets longtemps à le fumer, à le savourer?
Pour un bon Roméo Juliette numéro 3, il te faut à peu près 40 minutes.
Ah ouais, quand même. Ah ouais, donc là, t'es cool, t'es tranquille.
J'aime
sur ta
bien.
Terrasse.
Avec un cognac, si ça va, de préférence.
Ouais. Ah, je vois que tu aimes la vie, quoi. Alors peut-être qu'un jour, tu peux imaginer un truc à Lebkischl, avec un goût comme ça, un goût un peu épicé, de Repsesso.
Un goût cigare, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, oui, je pense. Et quels sont les projets de ton fils, là? Qu'est-ce qu'il a envie de... Comment il va continuer ça?
Écoute, il a des très beaux projets en vue, hein, je veux dire. Alors, il y en a surtout un que j'apprécie énormément, c'est à Gauxfil. Il a acheté un gros terrain. Il est en train de construire, c'est pratiquement en phase terminale. Il va monter un truc qui va être vendu que sur Internet. Il va être le premier style Amazon, vente à distance, robotisé.
C'est extraordinaire.
Avec un budget énorme, quoi.
Ah ouais.
Mais là, c'est en train. Je pense que c'est peut-être. Peut-être c'est déjà fini. Les bâtiments sont presque finis, mais après, il faut tout informatiser. Les colis vont être faits informatiquement, forcément, automatiquement.
Ouais. Un peu style Amazon, ce que tu disais à l'instant. Mais là, mais tu vas cartonner encore. Tu vas vendre ça autour du globe.
Bah écoute, je pense que c'est une très bonne idée qu'il a eue, hein, je veux dire. Et que c'est comme c'est quelqu'un qui a aussi, je veux dire... Une idée tous les 5 minutes, hein, une autre.
C'est comme son papa, quoi. En tout cas, Gérard, on était très, très contents et très fiers de t'inviter à nos micros devant cette forêt de micros à Radio Judaïka. Merci beaucoup, en tout cas, de ta venue. C'était très sympa de parler avec toi. Et puis, bonne chance pour la chasse, le golf et tes petits cigares. À bientôt. Merci beaucoup, Gérard.
Merci, André. Ça fut pour moi un moment merveilleux.
Ben pour nous aussi.
Merci à vous.
Voilà. C'est fini, on a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler.